Chapitre 19. La bravoure d'un chef. La perquisition opérée pendant que Poltavo attendait son arrêt dans un cachot n'avait donné aucun résultat. M. Smith avait compris qu'il arrivait trop tard et qu'une fois de plus, il était joué. « Et où allons-nous maintenant ?» lui avait demandé Ella en sortant de la maison. « Ben, nous retournons à Bull Cottage. » « Je suis certain maintenant qu'il existe un passage souterrain entre le pavillon et la maison magique. »« C'est la seule et unique façon d'expliquer l'enlèvement de Lady Dex et la disparition de Poltavo. »« Et quand je devrais démolir le cottage jusqu'en ses fondations, je découvrirai ce passage. » Durant une demi-heure, les deux policiers se livrèrent aux plus minutieuses recherches dans le salon où avait été enfermé Poltavo. Ils sondèrent particulièrement le plancher sans rien découvrir. Quant aux parois, ils s'aperçurent que sur tout leur pourtour, les boiseries de chêne étaient doublées de plaques de métal. « Bon, c'est inutile !» s'écria enfin M. Smith. « Nous n'arriverons à rien, il faudrait des techniciens !» Il reprit alors le médaillon trouvé sur l'un des hommes que Farrington avait tué devant sa porte et ajouta « Oh, dire qu'il y a peut-être dans cette inscription si simple la solution de l'énigme. God save the king. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire au sujet de l'ouverture d'un passage souterrain ?» Ella essaya de rire, mais on sentait qui n'avait pas non plus grande confiance dans la révélation qu'aurait dû leur apporter l'inscription. « Il ne nous reste plus qu'à chanter en chœur notre hymne national, » dit-il en plaisantant. Mais à ces mots, M. Smith eut une inspiration aussi bizarre qu'inattendue. Il alla au piano, s'assit et commença à jouer l'hymne patriotique. L'instrument n'était pas excellent, il n'avait pas dû recevoir depuis fort longtemps la visite de l'accordeur, mais enfin, M. Smith parvint à en tirer les notes voulues. « J'espérais qu'un miracle se produirait, » dit-il, lorsqu'il eut plaqué le dernier accord. « Néanmoins, je vais essayer de le jouer d'une octave au-dessus du ton habituel. » Il recommença, et aux dernières mesures, tout un panneau de la boiserie du salon glissa comme dans une rainure, laissant voir une ouverture béante. D'un moment, les deux détectives ne purent que se regarder en silence. Ils étaient seuls dans le cottage, ayant laissé deux agents en sentinelle dans la cour et tous les autres autour de la maison magique. Enfin, M. Smith, armé de sa lampe de poche, se pencha au-dessus de l'ouverture sombre. « J'entre là le premier, » dit-il. « Je vous suis, » répondit Ella. « Oh, voilà un interrupteur, » reprit M. Smith. Il tourna le bouton et une petite ampoule s'alluma dans une cage d'ascenseur. « Mais voici maintenant les commandes, » reprit le chef détective. « Allons-y !» Ils réussirent sans peine à mettre en marche l'ascenseur qui s'arrêta après une assez longue descente. Ils furent bientôt dans l'ancienne galerie de mine et découvrirent facilement les contacts électriques qui illuminèrent d'un bout à l'autre. « Quelle ingéniosité et quelle prévoyance !» s'écria M. Smith. « Voici maintenant notre train qui nous attend. » Ils n'hésitèrent pas à monter dans le wagonnet et à le mettre en marche. Au bout de la course, ils sautèrent à terre, prirent l'ascenseur qui s'offrait et arrivèrent enfin dans le corridor voûté qui desservait toutes les pièces du sous-sol de la maison magique. Avisant la première porte qui se présenta, ils essayèrent de l'ouvrir, mais elle ne possédait aucun système visible de fermeture. Ella passa les doigts sur les pourtours du cadre et enfin s'écria « Oh, il y a ici un petit trou, pas plus gros qu'une tête d'épingle. Nous allons voir. » Il ouvrit son coude de poche qui contenait un poinçon qu'il enfonça dans le petit trou. Instantanément, la porte s'ouvrit toute grande. M. Smith entra le premier, revolver à la main. Bon, si c'est une prison, dit-il, elle est luxueuse. Partout, en effet, des tapis, des meubles précieux, des objets d'art s'offraient à sa vue. Une dame, assise dans une chaise longue, lisait auprès d'un guéridon d'acajou. Lady Dex! S'écria M. Smith. Lady Dex se retourna, jeta un cri et se précipita vers lui. Oh, Monsieur Smith, grâce au ciel, vous voici enfin! Elle le saisit par le bras, elle disait des choses confuses et incohérentes en proie à la plus vive émotion. Calmez-vous, madame, lui dit le chef de la sûreté. Asseyez-vous et rassemblez vos souvenirs. Avez-vous vu Paul Tavaux ? Non, dit-elle, reprenant son sang-froid. Est-il aussi ici ? Bon, il n'est certainement pas bien loin. Je suis à sa recherche. Voulez-vous nous accompagner ou rester ici ? Oh, je vais avec vous. Ils ressortirent tous ensemble dans le corridor. Toutes les portes que nous voyons donnent-elles sur des pièces comme la vôtre ? Demanda M. Smith à Lady Dex. Je crois, répondit-elle, qu'il y a plusieurs cellules semblables, mais la principale est celle-ci, conclut-elle en désignant une porte peinte en rouge à une vingtaine de pas. Ils s'en approchèrent. Ella renouvela son exploration du bout des doigts. Sans doute, toutes les fermetures de la maison étaient du même système, car ici encore, une pointe métallique enfoncée dans un petit trou situé loin de la place ordinaire d'une serrure fit jouer un ressort et la porte s'ouvrit comme d'elle-même. M. Smith s'avança et demeura un instant abasourdi devant le spectacle qui s'offrait à lui. Un cadavre par terre, Farrington les bras croisés devant le corps de son ennemi, Fall en train de dégager des connexions électriques. Alors le revolver du détective s'éleva et son ordre retentit « Haut les mains !» À peine ces mots eurent-ils été prononcés que l'obscurité la plus complète les enveloppa tous. En même temps, Ella, qui était déjà sur le seuil, fut violemment repoussée en arrière et la porte se referma vivement devant lui. Il essaya vainement de la rouvrir, mais cette fois le poinçon n'obtint aucun effet. Ella pâlit. Oh, « Mon Dieu ! » s'écria-t-il, « ils tiennent le chef !» Il resta une seconde indécis. « Bon, retournons, retournons vite !» dit-il enfin. Guidant Lady Dex par la main, il revint à l'ascenseur, descendit dans la galerie, reprit le wagonnet et fut bientôt de retour à Moore Cottage. L'auto du chef attendait là. « Venez avec moi, » dit-il encore à Lady Dex. « À la maison magique, » cria-t-il au chauffeur. « Je vous remettrai chez vous dans quelques instants, » expliqua-t-il à Lady Dex, tandis que la voiture descendait la dune à toute vitesse. « Pour le moment, je ne peux pas perdre une seconde. Il y va de la vie de notre chef. Mais que peuvent-ils faire ?» « Oh, je ne le sais que trop, ce qu'ils peuvent oser, madame. Farrington joue sa dernière carte, et M. Smith va être sa dernière victime. » Dans l'obscurité absolue de la chambre souterraine, M. Smith attendait, le doigt sur la détente de son gros Browning. « Que personne ne bouge, dit-il, je ferai feu sans la moindre hésitation. » « Inutile de vous donner cette peine, » répondit la voix onctueuse du docteur Fall. « La lumière s'est éteinte par pur accident. Je vous assure que ni vous ni vos amis n'ont à éprouver la moindre crainte. » M. Smith s'avança prudemment en suivant la paroi. À un moment donné, il devina devant lui la haute stature du docteur et avança la main, mais à l'instant même, il reçut sur la tête un coup violent qui l'étourdit, tandis que son adversaire se ruait à ses jambes et le faisait rouler à terre. « Au fauteuil, vite !» entendit-il dire à Farrington. « Passez-moi un bout de fil, » répondit tranquillement Fall. En un clin d'œil, M. Smith se trouva attaché au fauteuil. La lumière revint. Les deux bandits se mirent tranquillement à préparer les détails d'une nouvelle exécution. Les contacts métalliques furent remis aux mollets et aux poignets du patient, les fils raccrochés aux fiches. « Eh bien, Monsieur Smith, dit enfin Farrington d'un air jovial, vous voici malheureusement tombé entre mes mains. Ah, à propos, où est l'autre policier ? Acheva-t-il en se tournant vers Fall. Tiens, répondit ce dernier, je l'ai oublié, oh, je vais voir ce qu'il est devenu. Il alla à la porte invisible qui s'ouvrit comme par enchantement et sortit. Il revint, au bout de quelques minutes à peine, la face tout assombrie et soucieuse. Mais il s'est échappé, dit-il, et la dame avec lui. Cela n'a aucune importance, grogna Farrington. Ils en savent maintenant déjà trop. Mettez la fermeture de sûreté aux portes. Il revint à M. Smith. Vous vous rendez bien compte de ce qui vous attend, lui dit-il. Et je vais vous informer, aussi exactement que possible, de la seule façon dont il vous serait possible d'y échapper. Je vous écouterai volontiers, répliqua M. Smith, mais je dois vous prévenir tout de suite que si mon salut devait dépendre, en quelque mesure, que ce soit du vôtre, il serait inutile d'insister. Vous l'avez deviné, reprit Farrington. Vous ne m'échapperez que si vous me laissez fuir librement, moi et mes amis. Ma première condition est que vous me laissiez tranquillement quitter l'Angleterre. Oh, je sais ce que vous allez me répondre, que vous n'avez ni le droit ni le pouvoir de me promettre cela. Mais je sais assez de quel privilège jouit la police. Je sais que vous pouvez très bien me conduire vous-même à Calais demain matin sans que personne ne se doute de rien. Je vous offre la vie sauve en échange. Et si je refuse? Alors je vous électrocute comme je viens d'électrocuter Poltavo. Vous êtes mon plus dangereux adversaire. Il y a longtemps que je me méfie de votre habile manœuvre et j'aurai un très grand plaisir à vous tuer parce que c'est vous qui m'avez forcé à vivre cette vie de bête traquée qui est la mienne depuis que je me suis enfermé ici. Savez-vous, vous avez été tout près de me prendre le jour où vous avez ouvert la porte pendant que j'écrivais? Mais notre système électrique m'a sauvé. Vous pouvez fort bien apprendre maintenant que nos étages ici, à la maison magique, ne sont que de grands ascenseurs. Je peux entrer chez moi au premier étage et me trouver ma chambre et moi au troisième, aussi aisément qu'une bouteille de vin est transportée de l'office à la salle à manger. C'est admirable, répondit M. Smith. Avez-vous jamais réfléchi que vous auriez pu faire une magnifique carrière comme ingénieur électricien? Sans doute, sourit Farrington, mais le choix de ma carrière et les occasions que j'ai pu perdre m'intéressent moins pour le moment que mon avenir est le vôtre. Alors, qu'allez-vous faire? Mais rien du tout, monsieur, répondit le grand détective. Car, je vous le dis, la mort seule peut me contraindre à laisser aller et venir par le monde un monstre tel que vous. Votre heure vient, Farrington, et que je meure moi-même un peu plus tôt ou un peu plus tard, cela ne changera rien à votre propre destinée. Vous mourrez dans moins d'un mois, que vous m'ayez assassiné auparavant ou non. Vous avez du courage, dit Farrington. À leur figure crispée, M. Smith vit que les deux formants n'étaient pas si tranquilles qu'ils le voulaient paraître. Ne vous imaginez pas un instant que vous allez échapper au châtiment, reprit M. Smith d'une voix assurée. Et, si vous voulez un bon conseil, ne gaspillez pas le court espace de temps qui vous sépare de votre entrée au bagne. Vous abrégez vous-même vos derniers moments, dit Fall. Quant à cela, répondit le chef détective en haussant les épaules, je ne puis pas plus que vous prévoir l'avenir. et silente dans les desseins de la Providence que je meure à mon poste, j'estime que j'aurais mérité le même honneur qu'un soldat frappé sur le champ de bataille, sinon davantage, car les ennemis de la société sont plus dangereux que les armées d'un envahisseur. Contre ceux-ci, la lutte ne dure pas toujours. Elle ne s'exerce que durant la période de folie collective qu'on appelle une guerre. Tandis que contre vous, il n'y a pas de trêve, comme il ne doit pas y avoir de merci. Pour toute réponse, Fall jeta un regard interrogateur à Farrington, qui fit un signe affirmatif. Le docteur alla chercher le casque qui avait servi à l'exécution de Poltavo et le plaça sur la tête de M. Smith. « Je vous donne 3 minutes pour réfléchir à ma proposition, » dit Farrington. « Vous perdez 3 minutes, » répondit le détective. Néanmoins, Farrington prit sa montre et la tint dans sa main ouverte. Durant ces 180 secondes, il y eut d'autres bruits dans la pièce que le tic-tac régulier de la montre de Farrington. Alors il la replaça dans son gousset. « Acceptez-vous ? » demanda-t-il. « Non !» cria vigoureusement M. Smith sous son masque. « Allez-y !» fit rudement Farrington. Fall porta la main à l'interrupteur, mais à ce moment même, la lumière des ampoules qui éclairaient la pièce se mit à vaciller et à s'affaiblir. « Vite !» cria Farrington. Le docteur pressa la manette du commutateur à l'instant où les lumières s'éteignaient. M. Smith eut une sensation de brûlure sur tout le corps et s'évanouit.